Le chômage va continuer à baisser, ce ne sont pas les mots de Madame Irma, mais de Muriel Pénicaud.
Mai 2017, puis l'élection d'Emmanuel Macron, avril 2019, c'est 60 000 demandeurs d'emploi supplémentaires.
Le taux de chômage est tombé à 8,5% de la population active dans toute la France. Le chiffre de l'INSEE, c'est le seul qu'il faut regarder, car il ne baisse pas à coup de radiation à Pôle emploi.
Depuis un an et demi, les chiffres du chômage ne tombent plus chaque mois, mais tous les trimestres, de façon à caler les relevés effectués par Pôle emploi avec ceux émis par l'INSEE, correspondant aux normes définies par le Bureau international du travail. Cette mesure avait pour objectif d'arrêter de cristalliser l'attention du public sur des variations trop faibles et trop peu significatives des indicateurs mensuels pour dégager des tendances plus larges et donc censées être plus représentatives de l'état réel de l'évolution du marché de l'emploi en France. Et pourtant, chaque publication de statistiques plutôt orientées à la baisse ces derniers mois donnent lieu à des démentis ou à des pondérations tendant à prouver que le chômage, contrairement aux annonces du gouvernement, ne baisserait pas tant qu'on veut bien le dire. Bonjour François Fontaine.
Bonjour.
Vous êtes économiste à la Paris School of Economics et professeur à l'Université Paris 1. Alors est-ce que le chômage baisse vraiment en France ?
Alors le chômage baisse vraiment, ou en tout cas ce qu'on a défini comme étant le chômage baisse effectivement en France depuis une ou deux années.
Alors néanmoins, si on s'en tient aux dernières statistiques et aux derniers chiffres, on a pu lire que bien ce recul, par exemple, de 0,2% des chômeurs de catégorie A était en fait lié à une augmentation du nombre de radiations de Pôle emploi. Est-ce que c'est vrai ?
Alors c'est faux dans le sens où le chiffre sur lequel on a commencé à discuter, donc 8,5% de chômage en France aujourd'hui, il n'utilise pas du tout une mesure qui vient de Pôle emploi. C'est une mesure qui vient d'une enquête qu'on appelle l'enquête emploi, qui est réalisée par l'INSEE et qui dépend absolument pas des radiations. On va demander aux individus s'ils sont ou non au chômage, qu'ils aient été radiés ou pas, qu'ils soient indemnisés ou pas.
Alors, il faut bien comprendre qu'il y a deux mesures, il y a celle de Pôle emploi et celle de l'INSEE. Et effectivement, les critiques se concentrent souvent sur celle de Pôle emploi qui aurait des objectifs de radiation justement pour pousser, pour accélérer ce mouvement de diminution. Est-ce que c'est une réalité ça aussi ?
Alors, je pense pas que ce soit une réalité dans le sens où je pense pas que Pôle emploi accélère particulièrement les radiations qui d'ailleurs en France sont pas extrêmement élevées de manière à faire baisser les chiffres. C'est d'autant moins vrai qu'en réalité, aujourd'hui, le gouvernement privilégie une source qui n'est pas la source Pôle emploi, qui est la source INSEE. Pôle emploi, c'est une source administrative, et notamment pour être considéré comme chômeur, il faut être inscrit à Pôle emploi, plus un certain nombre d'autres critères, alors que la source INSEE, c'est une source qui provient d'une enquête, où vous avez un panel représentatif d'individus, et puis vous allez leur poser un certain nombre de questions qui vont vous permettre de savoir s'ils sont ou non au chômage.
Est-ce qu'il y a l'une de ces deux sources qui serait plus fiable que l'autre ?
Alors, a priori, la source la plus fiable, ou en tout cas la source qui répond le mieux à des critères qui ont été définis au niveau international par l'Organisation internationale du travail, c'est la source INSEE. C'est la source qui permet le mieux de mesurer le chômage et surtout de donner un niveau de chômage qu'on puisse comparer avec le niveau qu'on a pour d'autres pays.
Aujourd'hui, ces deux sources vont dans le même sens, décrivent le même mouvement de diminution du chômage en France ?
Voilà, c'est ça qui est intéressant, je pense. C'est-à-dire qu'elles sont à des niveaux différents. Le nombre de personnes qu'elles mesurent n'est pas le même. Mais la tendance, et encore une fois, depuis maintenant au moins deux ans, la tendance est une tendance à la baisse dans les deux cas.
On lit également souvent des critiques de ces mesures du chômage comme ne mesurant que les chômeurs dits de catégorie A, c'est-à-dire les gens qui n'ont absolument pas de travail, ne rendant pas compte d'un autre mouvement qui est celui d'une augmentation des contrats courts, des contrats précaires. Là aussi, que faut-il en penser ?
C'est vrai, dans le sens où, ce qui est vrai en tout cas, c'est que pour être considéré comme étant chômage, il ne faut ne pas avoir travaillé, mais quand on dit ne pas travailler, c'est même pas une heure sur un certain mois ou une certaine semaine de référence. Donc c'est vrai que si vous travaillez ne serait-ce que 2-3 heures par semaine, vous n'allez pas être considéré comme au chômage. Et pourtant, on ne peut pas vraiment dire que vous ayez un emploi très stable. Donc la question de la précarité n'est pas forcément très très bien capturée, pas très très bien comprise par cette mesure-là. Malgré cela, si on prend des indicateurs de précarité comme le nombre de contrats en CDD à l'embauche ou le nombre de contrats de moins d'un mois à l'embauche, on a aussi une petite tendance à la baisse. Donc les différents indicateurs, si vous voulez, ils sont plutôt orientés dans le bon sens. Le problème, c'est qu'on est à des niveaux aujourd'hui qui sont des niveaux extrêmement élevés et que la précarisation du marché du travail, qui effectivement existe d'une certaine manière depuis au moins le début des années 2000, voire dans les années 90, cette précarisation elle est toujours là. Donc c'est pour ça aussi que le taux de chômage baisse et les gens regardent autour d'eux et disent « mais non, il y a toujours les mêmes problèmes, c'est toujours aussi difficile de retrouver un emploi ». Mais c'est parce que la qualité des emplois, notamment par exemple juste leur durée, la durée moyenne des emplois proposés, c'est raccourci de manière très brutale, en fait, depuis les années 2000.
Ça veut dire que cette tendance que vous mentionnez depuis, disons, 2 ans, qui est une tendance à la diminution du taux de chômage, elle est aujourd'hui très nettement corrélée avec une précarisation des nouveaux emplois qui sont mis sur le marché et qui sont pris.
Non, je pense pas qu'on puisse dire ça, justement. Je pense que c'est l'inverse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les différents indicateurs vont dans le même sens et dans le bon sens. On a une baisse du niveau de chômage. On a un petit rallongement de la durée des contrats. On a un petit peu moins de contrats de moins d'un mois dans les embauches. Donc dans ce sens-là, tout est bien orienté. Simplement, le problème, c'est qu'on reste à des niveaux extrêmement élevés et qu'on a connu une montée importante des contrats très très courts les 20 dernières années.
Et qui reste encore à un niveau donc
élevé. Voilà, donc je pense que le truc, s'il fallait avoir un chiffre en tête, c'est qu'aujourd'hui, on a quasiment 70%, un petit peu moins. 70% des contrats signés à l'embauche sont des CDD de moins d'un mois. Et ça, c'est important parce que, en fait, par exemple, la part des CDD dans les emplois, elle n'a pas beaucoup bougé depuis une vingtaine d'années. C'est toujours à peu près 12%. On tourne un peu autour de ça. Mais par contre, les contrats se sont raccourcis de manière extrêmement importante. C'est-à-dire que les contrats de moins d'un mois, dans les années 2000, c'était 50% à l'embauche. Aujourd'hui, c'est 70%.
Est-ce qu'il vous semble, François Fontaine, aujourd'hui, que ces méthodes de mesure du chômage qui se concentrent sur les chômeurs qui n'ont pas du tout travaillé est significative? Est-ce qu'il faudrait justement l'amender? Est-ce qu'il faudrait prendre en compte justement cette mesure de la précarité pour les rendre plus réalistes?
Les différentes mesures, elles existent, hein, elles sont disponibles. Le problème, c'est de les mobiliser. Donc, le taux de chômage focalise énormément l'attention parce que c'est un chiffre voilà, qui marque les esprits. Mais c'est assez facile en fait d'aller chercher l'information, en tout cas on la trouve de plus en plus dans la presse, sur par exemple effectivement la part des contrats très très courts. Et donc je pense effectivement que le taux de chômage en lui-même n'est pas suffisant pour réellement comprendre ce qui se passe sur le marché du travail. C'est un indicateur utile, mais c'est pas suffisant. C'est pas que la mesure est mauvaise, c'est qu'elle est imparfaite, mais ça c'est inévitable dès que vous cherchez à mesurer quelque chose.
Le fait d'avoir arrêté la publication mensuelle de ces chiffres du chômage, d'être passé à une publication trimestrielle, était une mesure de bon sens?
Je pense que c'était une mesure de bon sens, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas uniquement une question de fréquence. Ce n'était pas juste mensuel versus trimestriel. Ce qui se passe, c'est qu'on a pris trimestriel justement pour donner l'accent sur la mesure qui vient de l'enquête emploi, qui est la mesure INSEE, qui est la bonne mesure, en tout cas qui respecte les critères un petit peu internationaux de mesure du chômage. Et donc en fait, quand on a dit on passe au trimestriel, ça voulait dire aussi on va utiliser surtout l'enquête emploi. Alors forcément, Pôle emploi continue, lui, à générer des chiffres. Donc ça, c'est tout à fait normal et on en parle toujours, ils sont toujours exploités. Mais ce qui est très important, c'est effectivement la mesure trimestrielle qui vient de l'INSEE. Et ça, je pense que ça doit être la mesure qui doit être prise en compte.
Est-ce que la France, François Fontaine, a une mesure particulière? Est-ce que cette mesure-là, ou est-ce qu'il y a d'autres pays en Europe qui ont des mesures qui sont plus amples et plus descriptives de la complexité de l'évolution du marché du travail?
Pas nécessairement, parce que le taux de chômage, il est défini dans les instituts de statistiques nationaux des différents pays de l'Europe. Ils sont définis en utilisant une norme qui est la norme Bureau international du travail ou de l'Organisation internationale du travail. Et donc tout le monde suit cette norme. Le problème, c'est de compléter cet indicateur avec d'autres indicateurs. Et de ce point de vue-là, en France, mais comme d'autres pays, hein, c'est pas particulier à la France, je pense qu'il y a du travail à faire pour que voilà, l'opinion publique soit correctement informée des évolutions.
Peut-être faut-il une volonté politique?
Il faut une volonté politique, mais ce qui est compliqué, c'est que tout le monde joue avec ce genre de chiffres. Donc c'est le gouvernement, mais ça peut être aussi des oppositions, et je pense pas qu'on puisse dire que l'un plus que l'autre. Donc je pense aussi que c'est un travail que le citoyen doit faire, que les journalistes bien entendu aussi doivent faire, c'est-à-dire systématiquement de mettre en regard l'évolution du chômage, qui est intéressante, et puis d'autres indicateurs de précarité, pour essayer de toucher au plus juste un peu à ce qui se passe sur le marché du travail.
Merci beaucoup François Fontaine. Je rappelle que vous êtes économiste à la Paris School of Economics et professeur à l'Université Paris 1.
Merci.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.